Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais répondre à pas moins de 20 questions sur la gamification. Donc, c'est des questions qui me sont arrivées de tout plein de monde. Je suis allé chercher un petit peu ces questions-là aussi. J'ai demandé un petit peu quelles sont les questions que tu te poses sur la gamification. Et aujourd'hui, je les ai compilées et j'ai envie de répondre justement à ces questions. Donc, écoute, j'ai fait ma petite liste, elle est sur mon ordi juste devant moi et je vais y répondre petit à petit pour ouvrir un petit peu ta pensée sur la gamification et sur tout ce qui va aller autour en fait de la gamification, parce que tu vas voir qu'on va aborder pas mal de sujets. On va parler d'écologie, on va parler de dépendance, on va parler de jeux vidéo, on va parler d'éducation, on va parler de bataille, on va parler de plein de choses. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller étape par étape, question par question. Et t'apprendre du coup un maximum de choses sur la gamification, sur la science du jeu, sur toute la partie engagement psychologique que le jeu va pouvoir créer. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube si tu me regardes en vidéo et au podcast si tu m'écoutes en podcast. Et évidemment, si tu me regardes sur un extrait, que ce soit TikTok, Insta, LinkedIn, etc., t'abonner aussi évidemment. Ce sera avec grand plaisir. Donc c'est parti, on va commencer avec la première question. Première question, penses-tu que la gamification dans l'éducation peut être considérée comme une forme de conditionnement comportemental des élèves ? C'est pas un conditionnement comportemental, la gamification c'est un outil. C'est un outil qui est censé être au service de l'éducation et un professeur en fait qui utiliserait la gamification pour conditionner le comportement de ses élèves, ce serait pas un bon prof. Ce serait un prof qui aurait les mauvaises intentions et qui essaierait de transmettre sa vision du monde en mode copier-coller à ses élèves. Et l'idée de la gamification dans l'éducation, c'est pas de conditionner les élèves, c'est de leur donner des outils, de leur donner des moyens de se motiver, de s'engager. Par exemple, pour gamifier une classe d'école, on pourrait mettre un système de points et les points débloqueraient des récompenses plutôt que mettre un système de notation qui va encourager à fond la compétition entre les élèves, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'avait mis beaucoup la pression quand j'étais jeune. Donc, il y a vraiment cette idée de si tu veux gamifier l'éducation, pourquoi pas tout simplement te dire comment est-ce que je peux donner de la motivation aux élèves, comment est-ce que je peux leur donner du plaisir pour qu'ils apprennent ce qu'ils ont à apprendre, comment je peux les motiver à réviser pour les examens, comment je peux leur donner du sens, en fait, tout simplement, parce que c'est ça. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle a un gros problème, c'est qu'elle ne donne pas de sens, en fait, à ce qu'elle fait pour les élèves qui vont être dedans, et les élèves n'ont pas le choix que d'être dedans. Quand tu es petit, tu n'as pas le choix. Tu vas à l'école, tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit, et c'est ça la tristesse, en fait, de l'éducation nationale. Donc, il y a vraiment cette idée que la gamification, en fait, devrait du moins être considérée non pas comme un conditionnement comportemental des élèves, mais comme un outil d'engagement psychologique et actif des élèves, tout simplement. Deuxième question, les systèmes de notation et de classement utilisés dans les jeux vidéo en ligne créent-ils des toxicités et des rivalités malsaines entre les joueurs ? Carrément, alors moi je te conseille d'aller regarder la chaîne de Combo, que ça s'écrit K-O-M-B-O, et il en parle vachement bien. Il a une série de vidéos qui s'appelle Les Ravagés. Il a fait Les Ravagés de WoW, Les Ravagés de Counter-Strike, Les Ravagés de League of Legends, etc. Il a pris tous les gros jeux et il a parlé justement de à quel point les rivalités peuvent aller loin entre les joueurs. Il a donné un exemple, alors j'ai plus du tout les noms, etc., mais il y avait carrément l'exemple d'un mec. Il a perdu, en fait le gars était de base il était psychologiquement un petit peu instable et il arrive à se trouver un petit peu un talent dans le jeu vidéo, alors je sais plus quel jeu c'était, il fait de la compétition, il devient bon en compétition et il devient tellement bon qu'il devient numéro 1 pendant un certain temps. Donc il commence à revivre, à se créer une vraie vie sociale parce qu'à la base c'est un mec un peu solo et tout, et au final qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mec meilleur que lui qui arrive à un moment donné, il le bat. Donc le gars, il s'est fait, entre guillemets, retirer sa seule raison d'exister. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est revenu avec un gun et il a fait un carnage pendant une compétition d'e-sport. Donc oui, les systèmes de notation et de classement utilisés dans le JV, ça peut créer des toxicités, ça peut créer des rivalités malsaines. Il y a juste à regarder la scène e-sport. Mais à côté, moi-même, en tant que joueur, des fois, je joue à Call of Duty, à Battlefield, à des jeux comme ça qui sont très compétitifs. Ça m'arrive de m'énerver, je vais pas mentir. Ça m'arrive de péter un câble, ça m'arrive d'insulter le mec, ça m'arrive de rager. J'ai déjà désinstallé des jeux parce que j'étais tellement en colère d'avoir perdu que j'ai dit, nique sa mère, je joue plus à ce jeu-là. Ça m'est déjà arrivé, tu vois. Donc, il y a vraiment cette idée de toxicité et de rivalité malsaine qui va être créée. mais c'est aussi une bonne stratégie, malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, pour les développeurs de jeux, pour les, surtout les mecs qui vont, les éditeurs du moins du jeu, c'est que quand tes joueurs ressentent de la frustration, ils ont envie de pallier à la frustration, donc au lieu de perdre une partie et de s'arrêter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire j'en refais encore une et je gagne. Et du coup, ils vont créer plus de rétention dans leurs produits et dans leurs jeux. C'est ce qui se passe avec des Call of Duty, avec des Mortal Kombat, avec des Battlefield, avec des League of Legends, avec plein de jeux compétitifs comme ceux-là, en fait. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on a ce comportement en tant que joueur où tu te dis, bon, allez, on n'arrête pas de perdre, on s'arrête quand on a gagné. Et quand tu commences à gagner, tu dis, bon, allez, on va pas s'arrêter sur une si bonne série, on en gagne encore une autre et une autre et une autre. Et ça, en fait, ce comportement, c'est pas un hasard. C'est les développeurs qui l'ont bien pensé. Où ils vont jouer avec ta frustration et ils vont faire en sorte que tu reviennes soit pour continuer ta série de victoires, soit pour casser ta série de défaites. Dans les deux cas, tu augmentes ton exposition au jeu et s'il y a dans le jeu des microtransactions, bah, tu augmentes ton exposition à ces microtransactions et donc tu vas avoir plus de chances d'acheter et donc de rapporter de l'argent à l'éditeur du jeu, tout simplement. Donc ça, c'est un système, c'est des systèmes en fait que moi je trouve assez toxique, mais d'un autre côté, quand tu gagnes, bah, ça fait toujours plaisir, c'est gratifiant. Il y a vraiment cette balance entre gratification et frustration, et les jeux qui savent le mieux maîtriser cette balance, ils font un carton mondial, tout simplement. Troisième question, la gamification des réseaux sociaux, tels que la recherche de likes et de followers, contribue-t-elle à l'obsession de l'image de soi et à la dépression chez les utilisateurs? Évidemment que oui. La gamification des réseaux sociaux, donc les likes et tout, oui, parce qu'on se met inconsciemment à se noter et à s'entrévaluer les uns les autres, à se comparer par rapport à combien de likes est-ce que tu as, combien de followers est-ce que tu as, et voilà. Et du coup, bien sûr qu'il y a des dépressifs qui ont des milliards de followers, bien sûr qu'il y a des gens très heureux qui n'en ont pas, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il y a quelque chose de très malsain qui se passe parce qu'on a envie d'avoir plus de followers, parce que les followers, en fait, c'est là où les réseaux sociaux ont été forts, c'est qu'on te donne un feedback immédiat de si t'es quelqu'un d'intéressant ou pas. Et si t'as pas beaucoup de followers, inconsciemment, ça peut renvoyer le message que t'es pas intéressant. Et au contraire, et là ça marche encore plus, si t'as énormément de followers, c'est encore plus facile d'attirer encore plus de followers parce que tu dégages inconsciemment ce message que t'es une personne intéressante. Alors que, soyons honnêtes, il y a plein de gens qui ont des millions de followers qui puent la merde et qui sont pas intéressants pour un sou, et d'autres créateurs qui ont très peu de followers et pourtant qui sont super intéressants. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, les gens intéressants sont pas ceux qui sont le plus mis en valeur dans notre société, et ensuite, parce que les followers, c'est plus l'objectif des réseaux comme Instagram, etc. Maintenant, Instagram, Facebook et tout, c'est devenu des putains de plateformes publicitaires, donc ça change évidemment la donne. Question suivante, dans quelle mesure la gamification peut-elle être utilisée de manière éthique dans les soins de santé sans encourager la surmédicalisation ou la dépendance aux médicaments? Alors, moi j'ai un exemple, j'ai plus le nom, je sais plus si c'est... non, j'ai plus le nom, je suis désolé, mais il y a un exemple, je crois que c'est Fold Up, ou je sais plus exactement le nom, comment ça s'appelle, j'en parle dans mon livre qui s'appelle Entrepreneur du Kiff. Je sais plus comment ça s'appelle, bref, c'est pas grave. C'est en fait un système où pour faire avancer la recherche sur le sida, je crois, on avait besoin d'une molécule en particulier. Alors, j'ai pas les bons mots, les bonnes notions, etc., tu m'excuseras, mais en gros, on cherchait une molécule pour faire avancer la recherche, et en 12 ans, la science n'a pas réussi, en fait. Je crois que ça s'appelle Foldit, voilà, ça me revient, Foldit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, les scientifiques, ok, ben on va créer un jeu dans lequel les gens peuvent créer leurs propres molécules avec les schémas qu'on va leur donner. C'est un jeu qui est très facile, etc. Et les gens vont y jouer, et en fait, en y jouant, y a peut-être une personne qui va tomber sur la bonne réponse en essayant de gagner le jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 13 jours, les joueurs ont fait ce que les scientifiques n'ont pas réussi à faire en 12 ans. Et ça, c'est un des meilleurs exemples en fait qui montre que la gamification, ça peut être utilisé de manière éthique dans tous les soins, la santé, etc., etc. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers et des milliers. Donc, je reste sur celui-là pour ce podcast parce que j'ai encore pas mal de pain sur la planche au niveau des questions. Question suivante, la gamification des régimes alimentaires peut-elle contribuer à des troubles alimentaires, en particulier chez les jeunes? Alors, pour moi, c'est pas la gamification des régimes alimentaires, c'est, je pense, les régimes alimentaires eux-mêmes qui vont contribuer à des troubles alimentaires. En particulier chez les jeunes, je comprends pas trop cette partie de la question parce que tout le monde peut suivre des régimes alimentaires, mais du coup, alors en particulier chez les jeunes, j'imagine que c'est parce que les jeunes sont peut-être plus réceptifs à la gamification dans ta croyance, mais il faut savoir que c'est pas le cas. Tout le monde est réceptif au jeu, ça y a aucun problème. Et donc l'idée c'est que la gamification, elle contribue pas à des troubles alimentaires. La gamification, c'est un outil. Par contre, les régimes alimentaires peuvent contribuer à des troubles alimentaires et les gamifier. Si tu gamifies un régime alimentaire qui n'est pas terrible, forcément, tu vas contribuer à encore plus de troubles alimentaires. Par contre, si tu gamifies un régime alimentaire qui est sain, bah, ça va aider en fait. Ça va aider la personne à s'engager dans son régime. Après, là, je lance un autre débat. Est-ce que les régimes, c'est un bon plan? Sachant que si tu veux changer de physique, si tu veux changer de forme et de santé, bah, l'alimentation, c'est pour toute ta vie. Donc, l'idée, c'est de te dire, est-ce que le fait même de faire un régime, c'est pas déjà une erreur? Parce que, bah, tout simplement, si tu veux maigrir et que tu veux changer d'alimentation, par exemple, bah, tu la changes toute ta vie. Parce que le jour où tu rechanges et tu retournes dans tes travers, bah, tu vas retourner au même résultat, tout simplement. Donc, voilà, pour répondre à ta question, la gamification des régimes alimentaires ne contribue pas à des troubles alimentaires. Par contre, la gamification des régimes alimentaires, en fait, ça dépend de la qualité du régime. Voilà, tout simplement, on va pas se faire chier. Si tu gamifies un bon régime, t'augmentes l'engagement et donc moins de troubles. Mais si tu gamifies un mauvais régime, tu vas contribuer à des troubles alimentaires en plus parce que bah, tu vas engager la personne dans un mauvais chemin, dans une mauvaise direction. Question numéro 6. Les programmes de fidélité de certaines entreprises encouragent-ils la surconsommation et le gaspillage allant à l'encontre des objectifs de durabilité? Bah là, encore une fois, ça dépend de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, elles s'en foutent de la durabilité. Il y a des entreprises, elles s'en foutent de l'écologie. Il y a des entreprises, elles s'en foutent de saloper en fait, la planète. Et ça les regarde. Et moi, je critique même pas parce que chacun fait un peu ce qu'il veut, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que, encore une fois, c'est pas la gamification qui fait que. Là, on va plutôt parler de l'intention. Quelle est l'intentionnalité derrière le programme de fidélité de certaines entreprises. Donc, on pourrait par exemple prendre les compagnies aériennes. Tu prends une compagnie aérienne, elle va faire un programme de fidélité. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va encourager les gens à prendre plus d'avions et voyager plus, par exemple. On est d'accord. Maintenant, c'est à la compagnie aérienne de s'occuper de faire des avions peut-être plus écologiques, de faire des plus gros avions qui vont prendre plus de personnes pour faire moins de vols différents. Je sais pas quels sont les enjeux écologiques au niveau de l'aviation, par exemple, mais le programme fidélité, c'est juste la partie marketing, en fait. Il n'y a pas de responsabilité écologique dans la gamification de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tu peux gamifier un truc. Là on gamifie le marketing et l'engagement client, mais on change pas le service reste le même. Donc c'est au service de s'adapter aux objectifs écologiques et durables. C'est pas à la gamification, elle va juste ramener du monde. Après, ce monde-là, il va te payer pour ton service et en bénéficier tout simplement. Donc non, les programmes de fidélité, pour moi, ils vont pas encourager la surconsommation, ils vont juste augmenter l'attraction client, ils vont augmenter le nombre de personnes, et après, c'est à toi en tant qu'entrepreneur aussi de faire matcher la durabilité, les objectifs écologiques si tu en as et tout simplement l'offre que tu vas avoir. Moi, bon, il y a un exemple que j'aime bien, par exemple dans mon business, je passais par Stripe, alors je passe encore par Stripe d'ailleurs dans mes paiements, je me suis dit ok, je sais que Stripe, bah, ils ont des serveurs, ils polluent, ce qui est normal parce que ça se passe en ligne, ils ont des gros serveurs qui chauffent et tout, bah, je me suis dit bah, comment est-ce que je peux aider moi de mon côté écologiquement avec un petit geste. Et en fait, Stripe a eu une très bonne idée, c'est qu'ils ont inventé ce qui s'appelle Stripe Climate. Et Stripe Climate, en fait, ça veut dire que chaque personne qui passe par mon bon de commande Stripe, bah, y a un pourcentage que moi, j'ai prédéfini qui va partir dans une association pour la durabilité et l'écologie. Et donc, je me dis que c'est une manière, en fait, pour l'entreprise de compenser. Mais ce n'est pas pour autant que l'entreprise, elle va réduire le nombre de clients qu'elle va attirer. Tu vois, si Stripe était complètement gamifié dans ses stratégies d'attraction client, bah, ça poserait aucun problème parce qu'elle a déjà travaillé sur ses objectifs de durabilité dans son service, en fait. Donc voilà, pour moi, la gamification n'y est pour rien, entre guillemets, dans la surconsommation et le gaspillage, parce que la gamification, son seul objectif, c'est celui que tu vas lui donner. Donc voilà. Septième question, peut-on utiliser la gamification pour influencer tes opinions religieuses ou politiques? Et quelles seraient les conséquences pour ta liberté de penser? Pour moi, déjà, on n'est pas libre. La liberté de penser, pour moi, c'est un énorme fantasme. On n'est pas libre. Tu penses ce que ton environnement t'a mis dans la tête. Globalement, moi, je le vois un peu comme ça. Aujourd'hui, la façon que j'ai de penser, j'aimerais te dire que je suis libre, que je suis tout ça, mais je ne suis pas libre, en fait. Ce que je le pense parce que j'ai telle influence, je lis tel bouquin, je côtoie telle personne, je vais dans tel milieu, etc. etc. Donc, pour moi, déjà, il n'y a pas de conséquence de liberté de penser. À proprement parler. Pour moi, ça n'existe pas vraiment. Par contre, pour reprendre ta question, peut-on utiliser la gamification pour influencer tes opinions religieuses ou politiques ? Bien sûr, on peut gamifier les opinions religieuses et politiques. Ce qu'on appelle une trophéisation dans la gamification, c'est un de mes outils, où tout simplement, tu vas gagner une série de trophées pour des actions militantes pour un parti que moi je choisis. Si par exemple, je t'invente une connerie, hein, admettons que je veux que tu votes pour Mélenchon, c'est pas le cas, spoiler, mais imagine que je veux que tu votes pour Mélenchon, je vais venir voir un étudiant qui est un peu perdu, parce que bon, c'est un peu l'électorat, et qu'est-ce qui va se passer ? Je vais lui dire, voilà, si tu arrives à amener 10 personnes sur les réseaux sociaux de Mélenchon, je t'envoie 10 euros. Si tu en envoies 100, je t'envoie 50 euros. Et je t'envoie 2000 personnes sur ta page ou 2000 nouveaux militants à mon parti, je t'offre un voyage. Bah forcément, tu vas te défoncer, non pas pour le parti religieux ou politique, mais tu vas te défoncer pour la carotte que je t'ai proposée. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, l'idée, c'est que évidemment que les religions comme les programmes politiques sont gamifiés pour avoir un engagement de ta part, pour militer, pour que tu milites en fait à leur place et que tu augmentes leur portée gratuitement, tout simplement. Donc, bien sûr que oui, tu peux gamifier les opinions de quelqu'un et donc les changer en fait. Tu peux influencer les opinions avec de la gamification, bien sûr. Question numéro 8. La gamification des programmes de recyclage est-elle efficace pour promouvoir la durabilité ou s'agit-il simplement d'un moyen de rendre les consommateurs plus complaisants ? Alors non, ça marche de ouf, ça marche de ouf. J'ai un exemple dans mon bouquin qui s'appelle Entrepreneur du kiff, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est dispo sur Amazon d'ailleurs, si tu veux lire, il marche très très bien et les gens me donnent des super retours. Ferme la parenthèse. Oui, ça marche très bien et dans ce bouquin du coup j'en parle, il y a un exemple, j'ai plus les chiffres en tête. C'est un mec qui a gamifié des poubelles. Il s'est dit, pour toute personne qui va mettre des bouteilles de verre dans ma poubelle, il va gagner un bon d'achat dans la boutique à côté. Donc le mec a fait un partenariat avec la boutique, etc. Il a fait des partenariats avec la mairie et tout. Et donc les poubelles commençaient à avoir une plus-value pour les gens qui jetaient des trucs dedans. Et donc cette manière de gamifier l'écologie, du coup littéralement, hein, ça a permis en fait de rendre les rues plus propres. Et ça, c'est le genre de proposition que tu peux faire en tant que consultant en gamification en tout cas, que tu peux faire à des mairies, à toute la partie municipale. En fait, tu peux aller voir le maire de ta ville et lui dire, voilà, les poubelles, je vois que la rue chez toi, elle est dégueulasse. Je pourrais aller à Nice, par exemple, ce serait un super terrain parce que c'est une ville dégueulasse. Et l'idée, ce serait de dire, par exemple, voilà, votre ville, elle est pourrie. Donc, évidemment, il faut mettre les formes. Votre ville, elle est pourrie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait gamifier les poubelles pour encourager un mouvement citoyen, pour que les gens se mettent à jeter les déchets, non plus par terre, mais dans la poubelle. Le problème, c'est qu'on est dans un système qui est répressif. Donc, ça veut dire que si tu jettes un truc par terre, on va te foutre une amende, mais on ne va pas te récompenser parce que tu as bien fait les choses. Et en fait, c'est ça qui ne va pas dans cette France, en tout cas dans la France. Il y a des pays qui font ça beaucoup mieux que nous. C'est qu'on te punit parce que tu fais les choses pas bien, mais on ne te récompense pas parce que tu fais les choses bien. Et le problème, c'est que les deux fonctionnent de la même manière. Et on pourrait encourager les gens à bien faire les choses plutôt qu'à ne pas mal les faire, tu vois ? Donc ça, c'est un truc que moi, j'aimerais pousser au niveau du gouvernement. Ce serait génial que le gouvernement se dise « j'arrête de punir, je commence à récompenser ». Le résultat, ça sera le même, mais les gens seront heureux en plus, tu vois. Donc c'est vraiment ça qui est cool. C'est de te dire que oui, tu peux gamifier une poubelle, tu peux gamifier un chiotte. Je dis ça parce que ça existe. Tu vois, par exemple, je te donne l'exemple des chiottes. Il y a une société, leur travail, c'est de créer des cibles pour mettre dans les chiottes publiques parce que les gens pissent toujours à côté. Et donc, le fait de mettre une cible, tu as envie de jouer bêtement, tu vois, tu es en train de pisser, tu joues, tu te mets à pisser droit et à pas saloper, tu vois, le truc. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Plus besoin de femmes de ménage parce que les chiottes sont propres, et donc économie sur des frais d'entreprise, tu vois. Ça va aussi loin que ça, en fait, la gamification. Donc oui, tu peux gamifier absolument tout ce que tu veux. Question numéro 9. Les applications de rencontres utilisant la gamification contribuent-elles à la superficialité des relations amoureuses et à l'objectification des individus? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que une application de rencontre qui va utiliser la gamification, c'est une application de rencontre qui va solliciter en fait des leviers d'engagement pour que tu participes à l'application. Une application de rencontre, à la base, c'est aussi un business. On va prendre Tinder, par exemple. Tinder, c'est swiper à gauche, swiper à droite, je te prends, je te prends pas. Après, les relations amoureuses, alors ça commence sur Tinder ou ça commence dehors, peu importe où ça commence, c'est une question aussi de qui va matcher avec qui. Si ta façon de voir le couple, c'est je baise n'importe qui et ensuite je me casse et je vais baiser quelqu'un d'autre, la relation va rester superficielle. Si par contre, tu vas sur Tinder, mais tu as une intention d'avoir une vraie relation, que tu fixes les bases dès le début, que tu dis voilà, je suis sur Tinder, mais je veux des rencontres sérieuses et je suis sélectif sur ce que je vais avoir comme contact. Je suis sélectif sur les personnes que je vais avoir, à qui je vais parler. Là, forcément, que ça va pas être la même chose. Donc, la gamification, encore une fois, c'est ce qui va permettre d'engager les personnes, d'engager la c'est le véhicule, en fait, si tu veux. Et une fois que les personnes, tu les as fait connecter, après, elles se démerdent. Et c'est à partir de là que les relations amoureuses deviennent objectifiées, entre guillemets, superficielles ou pas. Donc voilà, c'est Tinder ou les applications de rencontre, c'est juste le médium. Après, il y a toi, en tant que personne qui va utiliser l'application, donc l'utilisateur, c'est aussi qui il est qui va faire qu'il est superficiel ou pas dans sa relation. Donc voilà pour la réponse à cette question. Question numéro 10, la gamification de la recherche scientifique telle que le repliement des protéines peut-elle être détournée à des fins malveillante, par exemple pour la création des bio-armes? Malheureusement, oui. C'est une très bonne question. Et malheureusement, oui, effectivement, on peut créer des armes biologiques et bactériologiques avec la gamification. De la même manière que j'en parlais tout à l'heure avec Foldit. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Foldit, fold.it. Si je dis pas de bêtises, hein, bien sûr. Et du coup, on pourrait imaginer que c'est la même chose chez des terroristes, chez des gens qui veulent créer une guerre, etc., des États, des partis politiques qui ont une branche scientifique qui a envie de foutre la merde, etc. On pourrait gamifier le fait de trouver une arme biologique et après, Dieu sait ce que les gens vont faire de ces armes-là, tu vois. Donc bon, l'utilisation, on sort du débat. Mais l'idée, c'est vraiment cette idée de est-ce que la gamification peut être utilisée à des fins comme ça? Malheureusement, oui, la gamification, c'est surpuissant et c'est pas surpuissant que pour le bon. Ça peut être aussi surpuissant pour le mauvais. Donc oui, on pourrait imaginer que la gamification pourrait permettre à des gens qui veulent créer une arme biologique de tout simplement faire de l'expérimentation, jouer à trouver quelle est la meilleure arme biologique et la soumettre à un groupe scientifique un peu foufou qui veulent créer ces armes-là et voilà quoi en fait. Donc c'est possible, oui c'est carrément possible et c'est une question qui me fait peur en vérité. Voilà, donc ça c'était la 10e question. Question numéro 11. L'utilisation de la gamification dans le domaine militaire risque-t-elle de déshumaniser les opérations et d'encourager des comportements non éthiques sur le champ de bataille? Oui et non, ça dépend comment tu vas utiliser la gamification. Alors, il y a plusieurs exemples. Un premier exemple, ce serait par exemple la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, ça va t'aider, par exemple, tu rentres dans une pièce, il y a un otage et tu vas apprendre à négocier avec la personne en face qui tient l'otage, à discuter, peut-être même à tirer s'il faut tirer et abattre le ravisseur, libérer l'otage, parler avec avec le parti d'en face, etc. Donc ça peut avoir une portée qui est super super humanisante en fait, où tu vas apprendre à créer de l'échange avec la personne, et ça peut aussi avoir ce côté super déshumanisant d'encourager des comportements qui sont pas éthiques sur le champ de bataille. Par exemple, si on mettait, imagine, on met un système de points pour chaque ennemi que tu vas abattre, bien sûr qu'il y a des gens qui vont se prendre au jeu et qui vont se mettre à tirer à tout va, qui vont tirer beaucoup plus facilement, etc. Et ce serait, j'imagine un gouvernement qui met ça en place dans son armée, qu'est-ce qui va se passer? Les soldats vont être plus engagés, c'est naturel, c'est humain, c'est un levier psychologique d'engagement, donc bien sûr que ça va se passer. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que oui, la gamification peut déshumaniser, mais elle peut aussi humaniser le comportement qui n'est pas éthique sur le champ de bataille. Donc, ça dépend vraiment de comment tu vas utiliser la gamification. On pourrait imaginer des simulations. D'ailleurs, il y a un jeu qui va sortir bientôt. Je vais essayer de me l'acheter quand j'ai le temps parce qu'il y en a énormément à faire. Mais il y a un jeu où justement, ça ressemble à Call of Duty. Tu vois, tu es en pleine guerre et tout. Sauf que tu n'as pas d'armes et tu es médecin. Et le but, c'est de trouver des mecs qui sont blessés par terre. Alors, ce n'est pas dur à trouver. D'aller les chercher, de les ramener, de voir quelle blessure ils ont, de traiter la blessure, etc. et de les aider. Et ça, tu vois, ce serait une version positive de la gamification. Et un médecin pourrait, par exemple, apprendre comment aller chercher un blessé en restant à couvert et sauver un mec de son camp, tu vois. Et à côté, tu pourrais avoir, comme je l'ai dit de l'autre côté, une version plus dark de la gamification où tu gagnes des points quand tu butes des mecs. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif en fait derrière le process de gamification, de comment tu as envie que ton armée fonctionne. Est-ce que tu veux une armée qui est complètement déshumanisée, déconnectée et qui est là, qui est en mode je suis né pour tuer, ou est-ce que tu es plutôt dans un état en tant que dirigeant d'une nation par exemple, dirigeant d'armée, où tu veux que ton armée soit beaucoup plus humanisante sur le papier et faire en sorte que l'armée, voilà, tu vois, elle ait un comportement un maximum éthique sur le champ de bataille. Voilà, donc ça, après, c'est tout un débat, effectivement. 12e question, la gamification des espaces de travail, tels que la compétition entre employés pour des promotions, crée-t-elle une culture toxique de rivalité au sein des entreprises ? Ça dépend des cultures d'entreprise. Alors, je pense que oui, je pense que mettre de la compétition entre les employés pour des promotions, ça va créer de la frustration et de la jalousie pour ceux qui ne l'ont pas eu. Il y a des gens qui savent transcender ça et se motiver pour avoir la motivation le mois d'après, et d'autres qui vont juste se dire « nique sa mère, ça me fait chier, j'arrive pas à avoir mon truc parce que bah, y a l'autre qui est meilleur que moi ». Donc, pour moi, c'est pas une des meilleures manières d'engager dans une entreprise, mais ça dépend encore une fois de la culture de l'entreprise. Si tu es dans une culture d'entreprise où c'est la compète pour tout le monde tout le temps, je pense que c'est sain. Par contre, si tu es sur une entreprise où effectivement c'est beaucoup plus dans une optique un peu plus familiale, etc., ça ne sert à rien en fait d'engager les personnes sur de la compétition. Donc si par exemple, je sais que Grant Cardone par exemple, il fait ça. Grant Cardone, qu'est-ce qu'il fait ? Il va créer de la gamification compétitive pour les personnes avec qui il va travailler, pour son équipe de vendeurs, etc. Il va dire voilà, si tu fais tel chiffre, tu as telle récompense. Si tu es meilleur que tous les autres, tu as telle récompense. Et il va motiver ses équipes comme ça. Ils sont de base dans un domaine compétitif, donc ils sont à l'aise avec ça. Par contre, si j'amène ça dans une boulangerie, je vais voir un mec, il fait du pain, et c'est une entreprise familiale avec son père, par exemple, le père et le fils, je ne vais pas mettre en compète le père et le fils pour celui qui fait le plus de baguettes de pain et qui va le vendre le plus, tu vois, ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Donc, oui, la compétition peut être puissante dans la gamification, dans l'entreprise et dans l'engagement, mais ça dépend encore une fois du contexte d'entreprise et surtout de la culture de l'entreprise en question. Question numéro 13. La gamification des programmes d'aide sociale tels que l'attribution de points pour l'obtention de prestations peut-elle stigmatiser les bénéficiaires et créer des inégalités ? C'est une très bonne question. Alors, les programmes d'aide sociale, de toute façon, je ne vais pas te mentir, toujours les mêmes qui en profitent. Hein, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais c'est toujours les mêmes qui bénéficient des programmes d'aide sociale. Par contre, s'il y a des points pour obtenir des prestations d'aide sociale, je pense que oui, ça peut stigmatiser les bénéficiaires et créer des inégalités. Mais de toute façon, il y en a déjà, et je pense que ça remettrait un petit peu, ça rebattrait un petit peu les cartes, je pense. Parce que je vois par exemple, je sais que je vais me faire des ennemis, c'est pas grave, mais je vois par exemple qu'il y a des immigrés, ils ont rien pour la France, ils viennent et ils pourrissent le pays, pas tous, mais certains, et du coup ils ont droit à tout, ils arrivent, ils ont une OQTF, ils doivent quitter le territoire français, mais ils sont là, il n'y a pas de problème, ils font tout ce qu'ils veulent, de toute façon ils sont tranquilles, et à côté je vois des SDF qui sont bien français, qui sont là depuis plusieurs générations, qui se battent mais qui ont été mis à la porte de l'entreprise ou qui sont juste dans la merde financièrement mais qui sont plein de bonne volonté, qui ont envie de travailler, qui se battent pour chercher du travail et qui n'ont aucune aide sociale, et du coup, peut-être que si on mettait un système de points, encore faudrait-il que ce système de points ne soit pas teinté en fait d'une vision politique, et ça va être super compliqué, je pense que ça pourrait finalement en fait ça pourrait déstigmatiser en vrai. En vrai, ça pourrait déstigmatiser. Donc ouais, je pense que des inégalités de base, il y en a déjà dans le système d'aide sociale et qu'on pourrait changer, on pourrait optimiser le système d'aide sociale si on mettait un peu de gamification là-dedans. Point numéro 14. 14e question, nouvelle question du coup, qui dit que Les jeux de hasard et de casino utilisent-ils des mécanismes de gamification pour exploiter la dépendance au jeu ? Alors ça, je te réponds très rapidement. J'ai déjà fait un podcast sur le sujet où je décrypte, je crois qu'il y a 13 mécanismes principaux que je décrypte sur les casinos principalement. Donc je t'invite à aller écouter directement l'épisode en question. Je ne sais pas quel est le numéro de l'épisode, mais il y a un épisode qui est vraiment dédié au casino et à comment il te manipule. Donc je t'invite à foncer l'écouter. Question numéro 15. La gamification des programmes de désintoxication ou de réadaptation peut-elle être efficace pour t'aider à lutter contre tes dépendances ou est-ce une forme de contrôle ? Non, alors là, je trouve ça très très bien. Pour moi, c'est super de gamifier des programmes de désintoxication parce que une personne qui est sous emprise d'une dépendance, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être la pornographie, ça peut être la violence, ça peut être, j'en sais rien, ce que tu veux, les médicaments, les antidépresseurs, etc. Une personne qui est victime d'une dépendance, elle est déjà sous une forme de contrôle, en fait. Elle est déjà sous une forme de contrôle et on peut l'aider à se sortir de ce contrôle, déjà en l'aidant à prendre conscience qu'elle est sous emprise et ensuite lui donner un driver, lui donner du sens pour s'en sortir, en fait. Donc, pour moi, la gamification, c'est un des meilleurs outils de désintoxication qui existe et pour moi, c'est ultra, ultra, ultra une bonne idée de le faire. Je vois pas de désavantage en fait à gamifier des programmes de désintox en fait. Tu prends un mec qui est shooté complètement, je sais pas moi, la cocaïne par exemple. Je dis ça parce que j'ai eu un client qui était cocaïnoman. Ce truc là, je l'ai aidé du coup à gamifier et en fait en gamifiant, en lui donnant surtout du sens. Le jeu c'était un petit peu mon véhicule, mais l'objectif c'était vraiment je vais te donner du sens, je vais te donner une target, je vais te donner une cible. Je vais te donner une destination qui fait sens pour toi par rapport à l'addiction que tu as, ça l'a aidé à s'en sortir parce qu'il n'était plus dans le circuit de récompense court-termiste propre aux dépendances, en fait. Donc, il était en mode, je vais me sortir de là, je vais m'en tirer et je sais pourquoi. Et en fait, on avait mis en place une grosse série de récompenses étape par étape où à chaque fois qu'il avançait, il y avait un moment symbolique, en fait, pour lui montrer qu'il avançait. Donc, on avait vraiment mis en place tout un système de jeu pour qu'il sorte de là de manière légère, de manière facile, de manière fluide. Et ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Et aujourd'hui, dernière nouvelle, tout va bien. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment comprendre que oui, la désintoxication peut être ultra optimisée grâce à des processus de gamification. 16e question. Les systèmes de notation des chauffeurs dans les applications de transport en commun peuvent-ils être biaisés et entraîner des discriminations ? Oui, alors là, tu me demandes en gros si on peut tricher, et bien sûr qu'on peut tricher. Moi, s'il y a un chauffeur qui me plaît pas, je suis pas pote avec lui parce que je suis un chauffeur concurrent et qu'il a trop de bonnes notes et que du coup ça me met un peu dans l'ombre, je vais créer plein de comptes avec une IA et je vais défoncer son compte avec des avis négatifs de merde, tu vois. Et ça existe en fait, malheureusement, maintenant c'est possible avec les IA et tout. Donc bien sûr que on peut biaiser les systèmes de notation, bien sûr que de toute façon tout est biaisé, enfin l'être humain il est biaisé de base, on a des biais psychologiques dans tous les sens, et le principe d'un biais, c'est qu'on n'a pas conscience qu'il est là. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que, tu peux entraîner des discriminations avec un système de notation. Maintenant, pour moi, mieux vaut qu'il soit là plutôt que pas, parce que le système de notation, ça évite quand même pas mal d'emmerdes. Voilà, on va pas se mentir, en termes de sécurité, en termes de confiance, etc., etc. Je prends Uber, par exemple. Si t'es Uber et que tous tes chauffeurs, ils sont logés à la même enseigne, et qu'ils ont pas de notes, tu sais pas si tu tombes avec un grand malade de la route qui conduit comme un ouf ou avec le meilleur chauffeur de ta vie, tu peux pas savoir. Donc les notes en fait elles vont aider à ça. Les notes en fait c'est un gage de confiance et de preuve sociale dont Uber pourrait je pense ne pas se passer. Pour moi c'est quand même important que ça soit là. Voilà pour cette question. Question numéro 17. La gamification des programmes de bénévolat telles que la compétition pour collecter des fonds favorise-t-elle l'altruisme authentique ou la recherche de gratification personnelle ? Alors, les deux. En fait, tu vas favoriser l'altruisme authentique en passant par la gratification personnelle. Par exemple, tu prends quelqu'un qui récolte des fonds pour sauver les dauphins, j'en sais rien, je te dis une connerie, et tu vas gamifier son programme de bénévolat. Le gars, il va avoir des bénéfices personnel, des gratifications personnelles parce que tu vas gamifier, donc tu vas le fixer des récompenses. Et en même temps, dans le fond, dans sa vision de fond, il va pouvoir contribuer. Donc en fait, comment est-ce qu'il va en parler ? Il va te dire, écoute, c'est pratique parce que j'y gagne, Et en plus, je fais un truc qui est important pour moi, à savoir contribuer à l'environnement, etc. etc. Donc oui, la gamification, en fait, ça favorise les deux. En fait, la gamification, il n'y a pas de un ou l'autre, c'est que tu gagnes partout avec la gamification, littéralement. Donc voilà pour la question, on va passer à la question numéro 18. Donc 18, tu m'as demandé, les programmes de fidélité dans l'industrie de la vente au détail poussent-ils les consommateurs à acheter plus que ce dont ils ont réellement besoin? Bah, c'est un peu leur fonction, j'ai envie de te dire. C'est un peu leur fonction. Un programme de fidélité, à quoi ça sert? Ça sert à fidéliser. Donc, fidélisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'achats, ça veut dire panier moyen plus grand ou panier moyen rempli plus souvent. Donc oui, je réponds à ta question assez rapidement, mais évidemment que les programmes de fidélité, en fait, c'est un outil de gamification qui est extrêmement puissant, qui est aussi de plus en plus ancien. Bah oui, ça va forcément pousser les gens à acheter plus, ouais, c'est clair. Question numéro 19. La gamification de la politique, telle que l'utilisation de jeux vidéo pour influencer les opinions électorales, représente-t-elle une menace pour la démocratie? Alors, grosse question, j'ai envie de te dire déjà, c'est quoi la démocratie? Parce que officiellement, en France, on est en démocratie. Officieusement, il n'y a pas 5 ans de ça, on devait encore écrire des autorisations pour sortir de chez nous avec un masque sur la gueule et on devait la signer nous-mêmes. Donc, déjà voilà, qu'est-ce que la démocratie? Ça, c'est la première question. Ensuite, une fois qu'on a défini la démocratie, il y a aussi ce truc de quelles opinions électorales ne sont pas victimes d'influence, en fait. La gamification, c'est un outil pour créer de l'engagement et pour influencer des personnes. Mais à côté de ça, bon, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être ce que tu veux. Toute opinion électorale, en fait, c'est un résultat déjà d'une influence qu'on a eue sur toi. Et on va te donner raison, quelle que soit la personne pour qui tu vas voter, etc. T'es sûr d'avoir raison, t'es sûr d'avoir tout compris. Et puis c'est tout. Enfin, voilà. Mais pour moi, les opinions électorales, c'est déjà des résultantes, en fait, d'influence que tu peux avoir. Alors, le jeu vidéo, comme tu l'as cité, ça peut être un moyen, effectivement. T'as des candidats qui vont se servir du média du jeu vidéo, mais il y en a plein qui vont se servir du média du cinéma, d'autres qui vont utiliser le livre, d'autres qui vont utiliser la réalité virtuelle, d'autres qui vont utiliser les hologrammes, je vais citer personne. Voilà, tu vas avoir plein d'exemples. Donc pour moi, la gamification, oui, c'est un moyen d'eux, mais c'est un moyen parmi une chier d'autres, en fait. Et j'arrive du coup sur la dernière question, et on arrêtera là pour cette petite session de réponse aux questions. J'ai bien kiffé, donc j'en referai d'autres. Les systèmes de notation des passagers dans les services de covoiturage peuvent-ils être manipulés pour diffamer injustement les conducteurs? Alors, je ne sais pas si c'est une question qui est vraiment qui est sur le thème de la gamification, mais pour te répondre et donner un avis quand même, les systèmes de notation des passagers dans les services de covoiturage peuvent-ils être manipulés? J'ai envie de te dire, qu'est-ce qui ne peut pas être manipulé aujourd'hui, en fait? Qu'est-ce qui ne peut pas être manipulé aujourd'hui? Et je dirais que pas grand-chose. Donc, on peut effectivement manipuler le système de notation des passagers. Tu peux dire que la personne, c'est une saloperie parce qu'elle n'a pas juste voulu ouvrir la fenêtre de la voiture parce qu'elle ne voulait pas trop consommer ou ce genre de truc. Et tu peux dire que la personne, elle est adorable alors qu'elle t'a parlé comme de la merde pendant tout le voyage. Tu vois, donc, déjà, de base, c'est très subjectif, c'est très biaisé. Et est-ce que ça peut être manipulé? Oui, je pense que oui. Et oui, je pense que ça peut être utilisé à des fins de diffamation aussi contre les conducteurs. Donc voilà, il y a vraiment des choses assez sombres, en fait, qui peuvent arriver dans la gamification. Donc voilà pour ça, je voulais répondre un petit peu à ces questions. Je vais préparer du coup une autre série, vous m'en envoyez beaucoup, donc je vais préparer une autre série de questions que j'ai pu avoir, etc. Donc à chaque fois, je prends le temps de les reformuler un petit peu pour qu'elles prennent vraiment sens et que je puisse y répondre bien et pouvoir les expliquer correctement aussi. Donc j'espère que cette session de questions-réponses a pu te plaire. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à commenter ce podcast, à t'abonner aussi, évidemment. Donc ça, c'est le plus important, évidemment. Si tu t'abonnes pas, c'est bien dommage parce que tu rateras les épisodes qui viennent. Je te mets également dans la description tous les liens utiles. Donc il y a mon site, il y a toutes mes offres, etc. Et il y a surtout un petit jeu sur mon site directement, 100% gagnant. Donc je t'invite à foncer sur mon site, tu vas découvrir ce petit jeu et tu vas pouvoir gagner quelque chose. Je ne te dis pas encore quoi, je te laisse juste aller voir mon site. Je te mettrai encore une fois le lien dans la description et je te dis à très très vite pour un prochain podcast. Salut.